À ma gauche, Joseph Aguera, vous êtes donc avocat au barreau de Lyon et vous êtes spécialisé dans le droit social. Et donc, à ma droite, Christophe Baudouin, vous êtes de formation avocat, docteur en droit public. Je crois qu'on peut aussi montrer votre thèse qui vient de paraître au titre vraiment intéressant, « La démocratie à l'épreuve de l'intégration européenne », sujet brûlant. Et donc, vous êtes juriste, évidemment, mais au Parlement européen. Et donc, c'est à ce titre aussi que votre témoignage sera effectivement intéressant pour le sujet qui nous rassemble ce soir. Et donc, je commencerai, je vais prendre la parole en premier. Donc, comment s'écrit la loi ? C'était donc le sujet que nous avions à traiter. Donc, évidemment, n'étant pas familier personnellement, des assemblées parlementaires, des commissions, des lois et autres cabinets ministériels, j'axerai prudemment mon propos sur la question des dispositions avec lesquelles la loi semble s'écrire sous nos latitudes. Mais je ne le fais que parce que je crois qu'il est au moins probable, sinon plus, de considérer que la manière que nous avons de comprendre ce qu'est la loi, sa nature, a quelque incidence sur la façon dont on l'élabore, sur la façon dont on l'écrit, donc. Et je commencerai donc par un exemple qui a retenu mon attention il y a quelques mois. Effectivement, je me suis penché d'assez près sur le parcours institutionnel qui a conduit à l'éclosion d'un texte législatif désormais célèbre, donc baptisé « Mariage pour tous ». Et au stade des auditions préalables au Sénat, je ne parlerai pas du fond, mais au stade des auditions préalables au Sénat, après l'intervention d'un collègue philosophe, Thibault Collin, M. Jean-Pierre Michel, président de la commission des lois au Sénat, s'est permis de partager donc librement sa conception justement de la loi. Alors je cite, le propos est oral, mais je le cite mot à mot. « Moi, ma position, c'est que ce qui est juste, c'est ce que dit la loi. Voilà, c'est tout. Et la loi, elle ne se réfère pas à un ordre naturel ou à un ordre, que sais-je, elle se réfère à un rapport de force à un moment donné. Et point final. » Thibault Collin, professeur de philosophie qui venait de donner sa communication, qui venait de parler, réagit, un peu interloqué quand même. « Ah oui, donc le fondement du juste, c'est le rapport de force. » Réponse de M. Jean-Pierre Michel, président de la commission des lois du Sénat de la République française. C'est mon point de vue. C'est le point de vue marxiste de la loi. Bien, la parole est à, et il donne la parole à un de ses collègues. Je voyais ça comme citoyen par Internet, et c'est vrai que cette formulation peut justement nous donner à penser justement la solidarité, me semble-t-il, entre la nature de la loi et la manière qu'on aura d'en envisager l'élaboration. Et ceci d'ailleurs, en l'occurrence, jusqu'au paradoxe ou au vertige, ou peut-être même d'ailleurs à la contradiction performative, puisque celui-là même qui préside les auditions et qui donc distribue ensuite la parole vient d'en saper radicalement la légitimité, et qui plus est, en le disant. Alors pour essayer de sonder cette affaire, je dirais que oui, il y a deux grandes manières, me semble-t-il, d'envisager ce qu'est la loi. Et en fonction de ce qu'on accepte de dire de la loi, la manière qu'on aura de l'élaborer sera profondément, me semble-t-il, transformée. La première façon d'envisager ce qu'est la loi, c'est celle qu'au fond donc adopte M. Jean-Pierre Michel, c'est de dire que la loi est le juste. Et ici, j'utiliserai le mot droit comme étant synonyme de juste. La loi est EST, c'est-à-dire se confond avec le juste. Et ici, M. Michel rejoint un auteur classique du XVIIe, je veux parler de Thomas Hobbes. Je vous ai donné vous avez dans votre petit fascicule quelques textes que j'ai pu donc passer, et je vous ai donné donc quelques extraits, notamment du Léviathan. Je lis donc Thomas Hobbes ici. « De même que lorsqu'il y a dispute au sujet d'un compte, les parties doivent s'entendre pour poser, droit positif, pour poser, comme étant la droite raison, la raison de quelque arbitre ou juge à la sentence duquel ils se tiendront tous deux. Ou sinon, leur dispute ou bien en viendra au coup, ou bien restera non tranchée, faute d'une droite raison établie par la nature. Faute d'une droite raison établie par la nature. De même en est-il dans les débats de toute espèce. Autrement dit, le problème ici, s'agissant de l'écriture de la loi, ce n'est pas tant de savoir quel est le contenu de la loi, mais j'allais dire qui tient le stylo. Le problème, c'est de savoir qui tient le stylo. Et ensuite, eh bien, procéduralement, on s'était mis d'accord pour dire que ce qu'écrivait un tel devait ensuite être considéré comme la droite raison, étant entendu qu'il n'y a pas de droite raison en dehors des paroles mêmes de celui qui tient le stylo. Je répète cette formule tout à fait impressionnante. Effectivement, faute d'une droite raison établie par la nature. De même en est-il donc dans les débats de toute espèce, quand des hommes qui se considèrent plus sages que les autres réclament à grands cris la droite raison pour juge, mais ont pour seul but que les choses ne soient réglées que par la raison d'aucun autre qu'eux-mêmes. Cela est aussi intolérable dans le commerce des hommes que d'employer comme atout, on est à la belote je crois que c'est la belote, d'employer comme atout dans une partie de cartes, après qu'on ait tiré la couleur qui servira d'atout, la couleur dont on est le mieux fourni. Or, ils ne font rien d'autre, ceux qui veulent que chacune de leurs passions, aussitôt qu'elle vient à régner en eux-mêmes, soit prise pour la droite raison. Et cela dans leur propre querelle. Ils trahissent leur manque de droite raison par la façon même dont ils y prétendent. Donc, ce qui est intéressant dans cette affaire, me semble-t-il, c'est que comment s'écrit la loi ? Le problème, ce n'est pas de mener querelle à propos du contenu de la loi, parce qu'on s'en sort jamais, nous dit Hobbes. On n'est jamais d'accord. Et donc, le risque, c'est qu'on en vienne au coup. Donc, il ne reste qu'une solution, se mettre d'accord sur un arbitre. Et ensuite, ce qu'il dira sera tenu pour juste par, justement, les parties. J'attire votre attention sur le fait que la condition de possibilité, disons, de cette proposition, elle est la suivante, c'est-à-dire que Hobbes est radical dans son choix parce qu'il pourrait se dire, bon, c'est pas très facile de trouver un accord, mais bon, à la limite, on pourra envisager que ce soit possible, etc. Non. Un autre fragment que je vous ai communiqué, page 48 du Léviathan d'ailleurs, enfonce le clou du point de vue des conditions, j'allais dire, métaphysiques de la compréhension du monde. Métaphysique, c'est peut-être un peu violent comme mot, mais simplement la manière d'envisager l'intelligibilité des choses avant même qu'on en parle. Je cite Hobbes. En effet, les mots de bon, de mauvais, de digne, s'entendent toujours par rapport à la personne qui les emploie. À chacun ses définitions, si vous voulez. Car il n'existe rien qui soit tel simplement et absolument. Ni aucune règle commune du bon et du mauvais qui puisse être empruntée à la nature des objets eux-mêmes. Cette règle vient de la personne de chacun, là où il n'existe pas de république. Et la plupart du temps, on finit par se taper dessus. Et dans une république, c'est même à ça qu'on la reconnaît, elle vient de la personne qui représente cette république. Et qui la représente parce qu'elle est habilitée à le faire, juridiquement. Faisant de sa sentence la règle du bon et du mauvais. Si vous voulez, voilà, c'est le premier point que j'aimerais envisager. Alors ensuite, ça peut donner des choses étonnantes, en même temps assez logiques. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un extrait aussi, je vous ai donné un extrait d'un positiviste tout à fait contemporain qui s'appelle donc Luhmann, et il peut dire, je vous ai donné aussi cet extrait, page 2, au bas de la page 2, vous avez des formules de Luhmann qui vont exactement dans ce sens. Le droit d'une société, dit-il, devient positif lorsque la légitimité d'une légalité pure est reconnue. Ça veut donc dire que la distinction entre légitimité et légalité, elle est au bénéfice de la légalité. C'est la légalité qui dit ce qui est légitime. En aucun cas, la légitimité ne peut remettre en cause la légalité. D'accord ? Donc, le droit d'une société devient positif lorsque la légitimité d'une légalité pure est reconnue. Par conséquent, lorsque le droit est respecté parce qu'il est établi selon des règles déterminées par une décision compétente, compétente juridiquement. Ainsi, dans une question essentielle de la vie des hommes, l'arbitraire devient institution. L'arbitraire devient institution. Autre formule, de Luhmann toujours, le caractère positif du droit signifie que des contenus arbitraires peuvent acquérir une validité juridique légitime grâce à une décision qui met en vigueur le droit et qui peut lui reprendre cette validité. Le droit positif est valide grâce à cette décision. Donc, voilà au fond, on peut dire que Jean-Pierre Michel, en fait, j'aimerais faire l'archéologie, si je puis dire, de les conditions de pensabilité de la position de Jean-Pierre Michel. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, Hobbes est sans doute un des paradigmes, une des sources essentielles de sa position. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que, effectivement, si la loi est le droit, effectivement, l'écriture de la loi naît et ne peut qu'être une affaire de force, de rapport de force. Très bien. Ça ne suffit pas parce que dans nos sociétés démocratiques, nous acceptons pas mal de choses de Hobbes, mais surtout pas sa solution, qui consiste à dire que le prince unique tiendra le stylo et tous les autres se soumettront à, sa volonté. Ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Parce que entre Hobbes et nous, intervient une révolution, la révolution donc dite des droits de l'homme. Aujourd'hui, c'est le sujet de droit qui tient le stylo, si je puis dire. Chacun d'entre nous, en tant que sujet de droit. Tel est le stupéfiant renversement initié par cette fameuse révolution des droits de l'homme. Et pensé par Gauchet, par exemple, et ici je vous donnerai un extrait de Claude Lefort. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit devient l'expression même du sujet. Le sujet fait sa loi, en quelque sorte, sans même faire appel à la réalité des lobbies, mais il faudra le faire, surtout quand on parlera de l'Europe, peut-être, mais sans faire appel à la réalité des lobbies, il faut bien voir que, dans la perspective de Hobbes, le sujet n'a normalement pas voix au chapitre. C'est le prince qui écrit la loi. Le contrat organisant, d'ailleurs, le contrat hobbesien, organise le retrait des sujets au profit du prince qui tient le stylo. Donc comment le sujet de droit pourrait-il revenir au centre du jeu? C'est que, me semble-t-il, nous sommes passés du, chez Hobbes, qui êtes-vous désormais pour revendiquer quoi que ce soit? L'atout, c'est trèfle, et même si vous avez beaucoup de carreaux, eh bien, vous devez, vous soumettre, au qui êtes-vous pour refuser à un sujet de droit le contenu de ses revendications? Le centre de gravité est donc passé du prince au sujet de droit. Qui êtes-vous, c'est une formule rhétorique qu'on entend pratiquement tous les deux jours, qui êtes-vous pour refuser à un sujet de droit le contenu de ses revendications? La confusion donc entre le juste et la loi positive, cette confusion est reconduite, mais au bénéfice de la loi et ici de la revendication de l'individu. Alors j'aimerais vous donner à voir le caractère étonnant, j'allais dire, de cette transformation. Je vous ai donné, je crois, page, c'est ça, 10, un texte qui est tiré d'un bouquin de Thibaut Collin, comme ça la boucle est bouclée. Il pose exactement cette question. Qu'en est-il aujourd'hui lorsqu'on utilise ces déclarations des droits de l'homme, pour légitimer des revendications dont certaines auraient fait blêmir d'effroi les constituants de 1789? Comment comprendre que l'on réussisse à capter le vocabulaire des droits de l'homme pour promouvoir des luttes qui reposent explicitement sur le refus de tout donné antérieur à la volonté individuelle? Savoir que la notion de droit naturel, elle est présente dans la Déclaration des droits de l'homme. Il y a là un chassé-croisé dont il faut bien saisir le ressort afin d'en découvrir l'efficacité rhétorique. Lisons donc deux textes fondamentaux de Claude Lefort avec un tel souci. Premier fragment. Les droits de l'homme sont énoncés. Déclaration des droits de l'homme. Ils le sont comme des droits qui appartiennent à l'homme. Mais, dit Claude Lefort, simultanément, l'homme apparaît à travers ses mandataires, ses représentants, comme celui dont l'essence est d'énoncer des droits. À quoi reconnaît-on un homme? Au fait qu'il est qu'il a le droit d'avoir des droits et d'en énoncer de nouveaux. C'est même par là qu'il manifeste, je dirais, sa singularité. Impossible, nous dit Claude Lefort, de détacher l'énoncé de l'énonciation, de l'acte d'énonciation, dès lors que nul ne saurait occuper la place à distance de tous, d'où il aurait autorité pour octroyer ou ratifier des droits. Ainsi, les droits ne font pas simplement l'objet d'une déclaration, il est de leur essence de se déclarer. Rassurez-vous, je n'ai pas perdu le titre de la communication. Comment s'écrit la loi ? Il est clair que si la simple revendication comme telle est légitime parce qu'elle existe, le problème de savoir comment l'écrire est secondaire. Le problème de savoir comment élaborer le texte est secondaire parce que ce qui compte, c'est d'abord de sanctionner la revendication tout simplement parce qu'elle existe. Elle a tendance à être de plus en plus considérée comme légitime du seul fait de son existence. Je reprends donc l'autre fragment du même auteur, Claude Lefort. Les déclarations des droits, dit-il, en ramenant la source du droit à l'énonciation humaine du droit, faisaient de l'homme et du droit une énigme. Par-delà leurs énoncés, elles faisaient reconnaître le droit à avoir des droits. Libérant, nous dit Claude Lefort en 1980, libérant ainsi une aventure dont le cours est imprévisible. On ne peut pas savoir quelles seront les revendications des uns et des autres je n'ose dire dans 10 ans, mais peut-être dans 3-4 mois. Ou, en d'autres termes, la conception naturaliste du droit, c'est-à-dire le vocabulaire dit des droits naturels, convoqué par les constituants et par les révolutionnaires, a masqué l'extraordinaire événement que constituait une déclaration qui était une autodéclaration. C'est-à-dire une déclaration dans laquelle les hommes, à travers leurs représentants, s'avéraient être simultanément les sujets et les objets de l'énonciation, dans laquelle, tout à la fois, ils nommaient l'homme en chacun, ils se parlaient eux-mêmes, comparaissaient les uns devant les autres et se faisant s'ériger en témoins, en juges, les uns des autres. Ce que l'idée des droits de l'homme récuse, c'est, nous dit Claude Lefort, la définition d'un pouvoir détenteur du droit. Ça, c'est pour Hobbes. Aussi bizarre que ça puisse paraître. La notion d'une légitimité dont le fondement serait hors des prises de l'homme. Tradition, nature, Dieu, nature des choses, etc. Et du même coup, la représentation d'un monde ordonné à l'intérieur duquel les individus se trouvent naturellement classés. Au fond, il n'y a pas d'autre ordre que celui que la volonté des uns et des autres y mette. Ce que l'abstraction de l'homme sans détermination nous lègue, deux points, l'universalité du principe qui ramène le droit à l'interrogation du droit. Quel est le sujet donc des droits de l'homme ? Lefort répond « un être qui a des droits ». La circularité de cette réponse souligne que le référent a été perdu. Il n'y a pas de référent, donc il n'y a pas de recherche. Il n'y a pas à rechercher le droit. Le droit n'a qu'à être lu dans les désirs des uns et des autres. Ce qui me conduit au troisième paradigme, et j'arrêterai là peut-être parce que j'ai peur que... Oui, ok. J'aimerais envisager un troisième paradigme qui m'a frappé en préparant cette communication. Il s'agit d'un auteur américain qui s'appelle McIntyre et qui a publié un bouquin dans la collection Léviathan, justement, et qui s'intitule « Quelle justice, quelle rationalité ?» Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous dit, voilà, le libéralisme politique, économique, s'est construit sur l'idée que, justement, s'agissant de l'ordre juste, personne n'était d'accord. Donc il fallait laisser la possibilité aux uns aux autres d'envisager cet ordre. Bien. Le problème, c'est que dire les choses ainsi, c'est énoncer une manière d'envisager le bien. Le libéralisme est toujours envisagé lui-même comme étant neutre par rapport à cette question. Mais ce n'est pas le cas. Parce que énoncer l'idée que, précisément, le bien n'est qu'affaire de préférence, c'est donner précisément une conception du juste qui aura, qui sera discriminant, pour prendre un vocabulaire tout à fait moderne. Et donc, Voilà ce que nous dit, McIntyre. Je donne un petit passage qui n'a pas été reproduit. Ce qui est permis donc dans le domaine public, nous dit-il, est l'expression de préférence d'individus ou de groupes estimés d'une façon ou d'une autre. Il se peut fort bien que, dans certains cas, les individus soient conduits à exprimer leur préférence par une théorie ou une conception du bien non libérale. Mais ces théories ou conceptions ne peuvent s'exprimer que sous la forme d'une expression de préférence. Les parallèles entre cette conception des relations humaines dans le domaine politique et social et l'institution du marché, principale institution d'une économie libérale, sont clairs, dit-il. Sur un marché aussi, ce n'est que par l'expression de préférences individuelles, et peu importe lesquelles, peu importe comment vous y êtes parvenu d'ailleurs, que peut s'exprimer, terme essentiel, une diversité hétérogène de besoins, de désirs et de biens conçus d'une manière ou d'une autre. Le poids donné à une préférence individuelle sur le marché est fonction du prix que l'individu est prêt à payer. Nous avons affaire non pas, comme chez Hobbes, à un prince et des sujets qui se soumettent, des sujets assujettis. Nous avons plutôt affaire ici, nous dit McIntyre, à des agents exprimant des préférences. Si bien que pour revenir à M. Jean-Pierre Michel, dans le cadre des auditions préalables à la constitution du texte, eh bien, il va nous dire « Vous vous êtes exprimé ?» Certes, vous n'avez pas, le rapport de force n'est pas pour vous, mais ça vous le saviez. En revanche, vous vous êtes exprimé. Si bien que, au fond, dans le, la définition de M. Michel, c'est à la question « Comment s'écrit la loi ?» Réponse, elle tend à sanctionner certaines revendications dans un contexte de rareté régi par le rapport des forces en présence. Point final, pour reprendre son expression. Dans cette logique, vous pouvez bien sûr vous exprimer. C'est bien le sens d'ailleurs des auditions qu'il menait. Mais votre parole, si elle n'est pas portée par un rapport de force ou de nombre favorable, tend à ne devenir qu'une parole qui n'appelle pas de réponse, au fond, mais plutôt un constat imparable, vous vous êtes exprimé. Et c'est là qu'est la nouveauté. Bien sûr, tous les hommes ont eu des désirs. Tous les hommes avaient des aspirations. On n'a pas entendu la modernité et la postmodernité pour le voir. Mais nous dit McIntyre, la nouveauté réside dans la transformation de l'expression des désirs à la première personne, sans modification particulière, en énonciation d'une raison de l'action et en prémisse du raisonnement pratique. Et cette transformation est, selon moi, dit-il, le résultat d'une restructuration de la pensée et de l'action, calquée sur les procédés caractéristiques des domaines publics du marché et de la politique libérale individualiste. Dans ces domaines, les données sont en dernière instance des préférences qui sont évaluées les unes par rapport aux autres. Le cheminement qui y conduit n'a aucune pertinence pour le poids qu'on leur attribue, dit-il. Le fait que les gens ont en général des préférences est considéré comme une raison suffisante pour agir de façon à leur donner satisfaction. Je répète, le fait que les gens ont en général des préférences est considéré comme une raison suffisante pour agir de façon à leur donner satisfaction. Si bien que là où les anciens considéraient qu'il y avait un ordre du juste, qu'il s'agissait d'exprimer par la loi, dans cette affaire, la loi pour les anciens ne n'est pas le droit, mais dit le droit, ou plutôt tente de dire le droit. Dans cette affaire, ce qu'on voit, c'est que le libéralisme a cru considérer que toute éducation au juste était potentiellement totalitaire, liberticide. Mais le libéralisme éduque lui aussi. Il éduque en creux. Il éduque à une vision du bien qui n'est que préférentielle, qui n'est que préférence. Et c'est une éducation. Et c'est une éducation qui, comme consommateur d'ailleurs, nous touche, j'allais dire, 24 heures sur 24. Et ceci nous transforme, que nous le voyons ou non. Le libéralisme a cru pouvoir faire de la loi une réalité seulement technique. Mais la loi joue son rôle d'éducation, que nous le voulions ou non. Et donc, mais c'est là que je m'arrête parce que bon, mais là l'idée, si vous voulez, c'est que si je dis que la loi est EST, le droit, la manière qu'elle aura de s'écrire sera d'une certaine façon accessoire. En revanche, si je dis, avec notamment, j'ai donné pas mal de textes dans le fascicule, donc des textes notamment d'Alain Sériot et puis de Michel Villet, représentatif du Jus Naturalis là-dessus. Mais si je dis que la loi dit le droit, justement, eh bien, nous dit Villet, il a lutté toute sa vie pour ça, c'est la dialectique qui est restauré par là. C'est-à-dire qu'il va falloir discuter ensemble parce que nous sommes inquiets. Le problème, c'est que celui qui revendique n'est pas inquiet. Il est juste inquiet de voir sa revendication aboutir ou pas. Mais celui qui discute avec l'autre pour essayer de déterminer le juste ne peut le faire d'ailleurs que parce qu'il considère qu'il y a un ordre juste en dehors de sa parole, parce que sans cela, alors ma parole n'a pas plus de légitimité qu'aucune autre, si ce n'est que c'est la mienne. Et puis autre chose, je vis avec d'autres et je suis inquiet d'atteindre autant que faire se peut de façon tâtonnante. Il ne s'agit pas d'envisager le droit naturel comme quelque chose qui serait une sorte de décalogue à appliquer très simplement, etc. Parce que là, ce serait faire encore du méta-droit positif. Le but du jeu, effectivement, c'est de tenter, par la dialectique, par la mêlée des opinions, d'essayer donc de s'approcher de ce juste. Or, ce qui m'a frappé quand j'ai regardé cette fameuse élaboration de la loi, c'est le fait que la plupart des parlementaires, des auditions, etc., étaient segmentés de façon étonnante. Personne ne répondait jamais à personne. Or, l'expression s'éteindra, on parle sans arrêt du droit d'expression, c'est beau l'expression, mais l'expression sans écoute n'a strictement aucun poids. Alors exprimons-nous, mais tant qu'il n'y a pas d'écoute, je dirais que malheureusement, je suis sceptique sur la façon dont on parviendra peut-être à écrire. En fait, j'appelle de mes voeux, si c'était possible, cette aventure exceptionnelle, en fait, de l'écriture de la loi. Voilà.
Merci beaucoup. Je vais poursuivre en m'appuyant aussi sur la philosophie du droit, et en commençant par, à tout seigneur, tout honneur, celui qui écrivit l'esprit des lois, en vous citant, mais ça sera court, la célèbre définition que donnait des lois Montesquieu dans l'ouverture de l'esprit des lois. Il disait « Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Et en ce sens, poursuivait-il, tous les êtres ont leurs lois, la divinité a ses lois, le monde matériel et animal a ses lois, l'homme a ses lois. Ces trois types de lois, qu'il distinguait, ont en commun l'idée d'un rapport nécessaire. Pour Montesquieu, donc, je parle sous le contrôle des deux et peut-être plus agrégés de philosophie qui sont dans cette salle, les lois expriment donc un rapport nécessaire à Dieu, à la nature, à l'homme. Et se demander ce soir comment on écrit la loi traduit, au regard de cette définition, et il y en a beaucoup d'autres, mais traduit une intuition, et j'ajouterais peut-être une angoisse. Je ne voudrais pas que mon propos soit anxiogène, mais je vais tâcher de décrire modestement ce qui pourrait fonder cette vague inquiétude qui pourrait être la nôtre au regard de cette question de ce soir. L'intuition d'abord, l'intuition que le rapport, ce rapport nécessaire dont parle Montesquieu, ce rapport a changé. Que la loi n'est plus pensée, qu'elle n'est plus écrite aujourd'hui comme hier. Qu'elle n'a peut-être plus la même source, la même forme, le même objet, ni les mêmes perspectives. L'angoisse de découvrir, derrière cette question énorme, non pas que la loi s'est, avec le temps, ajustée au mouvement de l'époque, qu'avec Pierre Manant, Marcel Gauchet, Finkielkraut, on peut appeler le mouvement démocratique, mais que ce mouvement même démocratique, ici, dans ce domaine-là, comme ailleurs, conduit à un véritable renversement. La pensée juridique commune, quand je dis commune, c'est au sens de la plus répandue, celle qu'on nous a appris sur les bancs de la faculté de droit, et qui est la plus admise, la pensée d'auteurs comme Kelsen a été publiée en gros au milieu du XXe siècle. À cette époque, et malgré les bouleversements que les catastrophes du XXe siècle annonçaient, l'ordre juridique était essentiellement fondé sur la loi comme commandement impératif et unilatéral. Elle s'imposait naturellement parce qu'elle était reçue comme légitime ou besoin par la contrainte. Dans cet ordre international qui est né, en fait, si on veut remonter, de la paix de Westphalie, des traités de Westphalie, était préservée à l'extérieur la souveraineté égale des peuples et à l'intérieur, deux principes que connaissent bien les étudiants en droit quand on parle de l'état de droit, la hiérarchie des normes et la séparation des pouvoirs. C'était donc un univers de distinction, donc de frontières, et de hiérarchie, donc d'autorité au pluriel. Tout le droit s'ordonnançait autour de grandes dichotomies que nous connaissons bien, droit public, droit privé, droit naturel, droit positif, droit fait, national, étranger, l'être ou esprit. Et c'était l'époque, qui est encore un peu notre époque, pardon de parler à l'imparfait, l'époque où le système de pouvoir était et est encore un peu, mais de moins en moins, arborescent à partir d'un foyer unique, originel de création du droit, qui était l'État, qui est l'État souverain, dont le sommet était la Constitution et à travers elle la volonté du souverain, dans une démocratie, le peuple. Cet univers pyramidal, autrement dit, était celui de concepts familiers, d'État-nation, de souveraineté, de territoire, de frontières, d'intérêt général. Et puis un jour, cet univers s'est mis à trembler. Avec, bien sûr, les progrès scientifiques et technologiques, avec la révolution industrielle, avec l'aspiration croissante dont vous avez parlé à l'instant, l'aspiration croissante des individus à l'autonomie et à l'égalité, qui sont les deux pieds du mouvement démocratique, l'homme occidental s'est mis peu à peu à refuser l'idée même de limite. Son rêve démocratique s'est transformé en une obsession d'échapper à toute contrainte biologique, sociale, au nom d'une foi, la foi en la science et au progrès, la foi d'un Jean-Pierre Michel. Alors les distinctions ont commencé à se brouiller à mesure que les frontières devenaient poreuses. Les hiérarchies ont commencé à vaciller, à être contestées à mesure où l'ordre apparaissait insupportable à cette aspiration égalitaire absolue. Déjà, Einstein élaborait sa théorie de la relativité. Nous voici donc en marche vers, nous dit-on, un avenir radieux où chacun ne serait soumis qu'aux limites qu'il se fixe librement. Alors, si vous permettez, dans la version de droite, cela donne le mouvement de la déréglementation économique et la mise en concurrence de tous avec tous. Dans la version de gauche, cela donne la déréglementation juridique complète du droit civil et la multiplication des droits subjectifs, auxquels vous venez de faire allusion également. D'où une métamorphose totale du rôle et du sens de la loi. Contrairement à la loi divine ou à la loi de la République, la loi postmoderne ne tire pas sa force de valeurs partagées. Elle ne tire pas sa force d'un devoir-être qui serait ordonné à une idée du bien commun que nous partageons, au même titre que le vouloir vivre ensemble qui est à la base de ce qu'on appelle la communauté nationale. Tout cela, les valeurs, d'une manière générale, sont renvoyées à la sphère privée. C'est l'affaire de chacun, ça n'est plus l'affaire de l'espace public et donc ça n'est plus l'affaire de l'État ni de la loi. À part celle qui proclame les droits de l'homme, la loi est peu à peu réduite à une technique vide de sens, norme technique destinée à faciliter ce mouvement perpétuel des marchandises, des capitaux, des services, des individus et des mœurs. Il s'ensuit en Occident, une profonde transformation de l'État et du droit moderne, que certains ont appelé, depuis longtemps, carrément une mutation génétique. Alors, certes, vous allez me dire, notre Constitution porte toujours la marque de l'ordre ancien, de l'ordre pyramidal, avec à son sommet précisément la Constitution elle-même et l'arborescence. L'article 6 de la Déclaration de 1789, qui est partie intégrante de notre Constitution, affirme toujours « la loi est l'expression de la volonté générale ». L'article 3 de la Constitution française dit toujours « la souveraineté nationale appartient au peuple ». Elle pose toujours que le principe de la République est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Article 2. La justice continue de se rendre au nom du peuple français. Volonté générale, donc, souveraineté nationale, peuple, république, toutes ces références à un principe transcendant peuvent bien être affirmées par le texte constitutionnel et dans les discours politiques et électoraux. Il n'en demeure pas moins que la loi est de moins en moins écrite à partir d'un référent extérieur à l'individu, d'un tiers garant, Dieu, la nature ou le peuple souverain. Nous sommes passés du gouvernement à la gouvernance, de la réglementation et de la législation à la régulation, c'est-à-dire de la pyramide au réseau. Les mots n'apparaissent jamais par hasard. Et si ces mots sont apparus, gouvernance, régulation, empruntés, pour ce qui est du mot gouvernance, empruntés au système féodal, régulation, et tout cela emprunté au mode de gestion des grandes entreprises anglo-saxonnes, si ces mots sont apparus, c'est pour formuler quelque chose d'inédit. La régulation oblige à distinguer, je vais arriver avec deux mots aussi qui sont arrivés dans le vocabulaire récemment, le régulateur et l'opérateur. On distingue bien les deux fonctions. Le régulateur, c'est celui qui a l'autorité de décision, et l'opérateur, c'est celui qui a le pouvoir physique d'agir. Donc le régulateur exerce son autorité sur l'opérateur. Or, l'État keynésien, celui qui s'efforçait d'intervenir après la guerre dans l'économie pour établir ou rétablir la concurrence, soutenir la monnaie, relancer la consommation ou l'investissement. État keynésien qui est aussi, après la guerre, l'État-providence. Il ne pouvait, dans ce nouvel ordre, être à la fois le régulateur, le grand régulateur, et l'opérateur, sans fausser la concurrence. Il a donc fallu créer partout des autorités indépendantes chargées de cette fonction de régulation, donc de la décision, et maîtrise de normes en lieu et place de l'État. Nous avons des autorités de régulation dans beaucoup de domaines, l'électricité, les télécoms, la télévision, la bourse, le médicament, la santé, l'hospitalisation, l'informatique, que sais-je encore. Il faut y ajouter, parce que ça relève de la même chose, les comités d'éthique, qui exercent un pouvoir davantage spirituel, si je puis dire, et puis naturellement, s'agissant de la régulation du marché, les deux grandes autorités régulatrices puissantes du marché, la Commission européenne et l'Organisation mondiale du commerce. C'est un véritable droit global produit par une administration globale qui a émergé. Droit global et administration globale que je distingue de droit international, c'est-à-dire produit par les États-nations dans le concert des nations, au terme de traités. Distinction qui, d'ailleurs, fait l'objet, cette émergence d'un droit global fait l'objet de recherches et de publications très abondantes, dont je m'inspire ici ce soir, d'un groupe de chercheurs italiens, qui a mis en évidence qu'il existe aujourd'hui, donc pour décrire cette administration globale, plus de 2000 organisations de niveau mondial, plus de 100 tribunaux internationaux, une centaine d'organes quasi-juridictionnels, des centaines de normes d'application universelles, qui s'adresse non seulement aux États, mais aussi donc aux administrations et aux particuliers directement. Et ces organes internationaux ou mondiaux, globaux, et leurs normes ignorent très peu de domaines également. Je citerai pêle-mêle, évidemment, le commerce des biens et services, le transport aérien, l'environnement, l'espace, la défense, la mer, la santé, les épidémies, la police, la monnaie, bien sûr, l'alimentation, la poste, les énergies, la climatologie, le droit du travail, l'Internet. Je m'arrête une seconde, l'Internet, c'est l'ICANN, organisme privé américain. Les ressources marines, les contrats publics, le terrorisme, etc. L'ordre juridique européen est le laboratoire expérimental le plus avancé de cet ordre global en gestation. Et il se présente déjà lui-même comme un réseau. Le réseau judiciaire, avec la Cour de justice à Luxembourg, la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, reliés aux juges nationaux. Un réseau exécutif autour des conseils des ministres, on parle toujours du conseil des ministres, mais il y a des conseils des ministres par thème, des conseils des ministres, du conseil européen, de la commission, prolongés dans les écheveaux de la comitologie. Un réseau parlementaire, alors là, lui, il est balbutiant parce que autour du Parlement européen et des parlements nationaux, disons qu'il y a un début de quelque chose avec la COSAC et ce type d'organisation que Patrick Louis connaît très bien, mieux que moi. Ce réseau parlementaire est balbutiant parce que, bien entendu, les peuples et leurs représentants sont plutôt, manifestement, dans ce système, un obstacle à contourner. Et puis, autre réseau que l'on oublie, qui est un réseau plus informel, mais qui est extrêmement important, qui est ce que j'appelle le réseau d'influence, tout simplement, avec les lobbies, les syndicats et autres ONG qui participent d'un bout à l'autre à la conception des lois, si je puis dire, ou des textes européens. Le volume de ce droit, qui est donc impératif et immédiat, qui est conçu au sein de ces réseaux, on va appeler ça le système de gouvernance européen, ce volume mérite d'être souligné, ce qu'on appelle l'acquis communautaire. Je vais vous le faire par année. Chaque année, les directives représentent entre 50 et 60 textes par an. C'est une chose, sachant que les trois quarts de ces directives sont transposées par la voie réglementaire, c'est-à-dire que ça ne passe même pas par l'Assemblée nationale. Ça passe par décret ministériel essentiellement. Mais la partie immergée de cet iceberg normatif européen représente 2500 actes d'exécution par an. Alors vous allez me dire, ce ne sont que des actes d'exécution, des textes qui ont été pris à l'air libre, au grand jour, dans les assemblées parlementaires européennes et avec un certain droit de regard des parlements nationaux. Sauf que sur ces 2500 actes d'exécution, 2000 sont des règlements, des vrais règlements, c'est-à-dire des vrais actes d'exécution qui relèvent de l'exécution de la comitologie, mais 500 ont une nature législative. Ils auraient dû passer par la loi. Au total, aujourd'hui, entre 80 et 90% des lois nouvelles sont issues de ce système européen de gouvernance. Alors, j'en viens maintenant à ce qui caractérise ce système de gouvernance globale dont l'Europe intégré est le laboratoire avancé, le laboratoire le plus laboratoire expérimental. Quelques grandes caractéristiques. Première grande caractéristique, donc pour faire la comparaison, le droit national, donc droit national et international, c'est la même chose, c'est l'ordre westphalien, c'est le droit qui émane de l'État-nation, tourne autour d'un seul pôle, par définition, c'est-à-dire l'État, ses organes, gouvernement et parlement national. Le droit global, lui, est multipolaire. Exemple avec le droit européen, la production normative se déroule non pas sur décision d'une autorité publique centrale, il n'y a pas d'État européen, mais au terme de consultations, négociations, trilogues avec des entités et des organes placés sur un même plan, des négociations qui ressemblent à une sorte de marchandage permanent pour permettre l'adoption de compromis. Et dans ce marchandage permanent, vous sentez bien que les experts, les lobbies, les représentants autodésignés de la société civile qui interviennent à tous les stades depuis la conception par quelques 3094 comités d'experts jusqu'à l'exécution, ces réseaux, ce réseau d'influence est titulaire d'un pouvoir considérable. Le Parlement européen, qui, avec ses hyper-majorités caractéristiques du compromis permanent, la plupart des textes sont négociés en amont, non seulement dans le cadre de trilogue avec les autres institutions, mais après, au sein du Parlement, au sein des commissions parlementaires, ce qui permet, avec des représentants de chaque groupe, en général, les trois grands groupes, s'ils se mettent d'accord, il n'y a plus aucun problème, le texte est adopté d'un seul homme, ce qui nous donne des taux de convergence de vote entre les trois grands groupes parlementaires, le PPE, le PSE et ALDE, c'est-à-dire les libéraux, en gros la droite, la gauche et les libéraux, plutôt de droite, mais en réalité le libéralisme c'est aussi la gauche, compte tenu de ce que je viens de dire, adopte d'un seul homme 95% des textes ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est le résultat de compromis. C'est ce qu'on appelle la démocratie apaisée. Cette adoption de texte se fait donc entre, je l'ai dit, donc le Parlement et ce que j'appelle les hypermajorités, et en codécision, vous le savez, avec le Conseil représentant des États, qui lui, maintenant, vote la plupart du temps à la majorité qualifiée, ce qui fait des gagnants et des perdants. Mais il faut savoir que le Conseil des ministres, quand il vote, en réalité, il ne fait que ratifier ce que vient de décider le COREPER, c'est-à-dire les représentants des États, les diplomates, qui ont négocié avec les fonctionnaires de la Commission européenne. Désormais, le droit est davantage l'œuvre de fonctionnaires et de diplomates que des élus au suffrage universel. Ce n'est pas vraiment un scoop, je pense, pour vous. L'ensemble du processus étant intégralement maîtrisé par la Commission européenne, depuis le monopole de l'initiative des textes jusqu'à la rédaction des actes d'exécution. Deuxième caractéristique de cet ordre global et de ce pouvoir normatif, il est omniprésent avec un grand nombre de prescriptions et de normes. Je vous ai cité tout à l'heure le nombre de textes qui composent l'acquis communautaire. Si vous voulez retenir un seul chiffre, aujourd'hui un État membre qui veut adhérer, qui est dans le processus de négociation, il reçoit immédiatement de Bruxelles 26 000 actes communautaires, c'est-à-dire 26 000 actes qu'il doit s'apprêter à incorporer à son propre droit, puisqu'il fait partie, ça fait partie des conditions, bien entendu, d'adhésion, c'est d'adhérer à l'acquis communautaire, c'est-à-dire à l'ensemble du droit accumulé jusque-là. Donc, le pouvoir normatif est très développé, mais le pouvoir exécutif, en revanche, lui, y est beaucoup moins développé que dans un État. Et comme c'est le cas pour l'Union européenne, il s'en remet aux exécutifs nationaux, à leurs administrations, à leurs juridictions. C'est ce qu'on appelle l'indirect rule, c'est-à-dire l'administration indirecte. Toutes les normes et les tâches de l'ordre global, en l'occurrence de l'ordre européen, sont exécutées par les organes nationaux, ce qui permet à l'Union européenne, par exemple, de détenir un pouvoir décisionnaire considérable malgré une dimension administrative et budgétaire extrêmement modeste. Le volume les fonctionnaires de l'Union européenne, ça représente en gros le même volume que la mairie de Paris. Le budget est extrêmement étroit. Ça n'a rien à voir avec le budget fédéral des États-Unis qui, pour le coup, sont un État fédéral, mais un État-nation. Ce qui fait que quand vous entendez le terme État membre, il faut de plus en plus le comprendre comme État membre au sens organique de démembrement d'un système. Nous avons un système administratif supranational qui produit un droit transnational, relayé, exécuté par 28 démembrements étatiques, si vous me permettez cette formule. Troisième caractéristique de l'ordre global, il est composite. Ainsi, le droit européen exige non seulement que les droits nationaux se conforment à lui, mais il les met en communication directe, en concurrence, les uns avec les autres, en favorisant le law shopping, c'est-à-dire le marché de normes, pour choisir le droit le plus favorable, au sens du marché par-dessus les frontières. Quatrième caractéristique qui distingue le droit international du droit global. Quatrième caractéristique, le droit international est dominé par une conception dualiste qui interpose l'État entre le droit international et le droit national. Avec le droit global, au contraire, ce rôle d'écran que jouait l'État est atténué ou supprimé. D'abord parce qu'il est lui-même soumis au droit européen qui bénéficie de la primauté et de l'immédiateté. Il n'est plus l'État le seul sujet de droit international, puisque désormais l'Union européenne, à la suite de la communauté, détient la personnalité juridique, ce qui lui permet de remplacer les États autour de la table à l'OMC, ce qui lui permet déjà, d'ores et déjà d'avoir, depuis 2011, un siège de membre observateur aux Nations Unies. Et j'ajoute qu'une citoyenneté européenne vient s'ajouter à la citoyenneté nationale. Il y a donc un contournement de l'État-nation par tous les côtés. Cinquième élément qui distingue bien le droit international du droit global, c'est l'objet. Le droit national impose aux citoyens des obligations et des droits. Et il cherche à équilibrer, en gros, l'autorité de l'État et la liberté des personnes. Le droit global, lui, a plutôt pour objet et pour effet d'augmenter sans cesse les libertés subjectives des individus, des minorités, des groupements d'intérêts, des entreprises multinationales, en imposant des limites à l'action des États. Sixième distinction, et ça sera la dernière, avant ma conclusion rapide, la qualité matérielle même de la loi a changé. À la loi impérative, perpétuelle, claire, générale, parcimonieuse, se substitue peu à peu la loi négociée ou dont l'opportunité d'application peut être discutée, la loi expérimentale qui cède souvent à la confusion, à la spécialisation technique et à la prolixité. Cette dénaturation du droit, et notamment le fait de la montée en puissance de ce qu'on appelle le droit mou, la soft law, c'est-à-dire toutes ces communications, lignes directrices, résolutions qui représentent aujourd'hui près de 12 000 textes sur les 26 000 que je vous ai cités tout à l'heure, 12 000 actes juridiques non contraignants mais extrêmement encadrants, émis par la Commission et le Parlement, d'ailleurs souvent en dehors de leur domaine de compétence. Cette dénaturation du droit résulte aussi de la montée en force, je l'ai évoqué, de la normalisation technique. Il y a partout des normes de qualité, de certification. Et cette normalisation technique se retrouve même dans les actes juridiques contraignants, c'est-à-dire dans les 15 000 autres actes produits aujourd'hui en vigueur par l'Union européenne. Enfin, cette dénaturation du droit traduit probablement une forme de mutation de la loi qui résulte moins de la recherche de l'intérêt général désormais par la dispute démocratique que de cette négociation permanente dont je vous parlais et du compromis permanent entre des intérêts particuliers ou catégoriels. Nous voyons bien donc que coupé de sa formulation politique, au sens noble du terme, de sa source démocratique et de la recherche du bien commun, cette faible légitimité du droit global, qu'est le droit européen, ne l'expose-t-elle pas, cette faible légitimité, à un risque de plus en plus élevé de désobéissance? On n'obéit plus à une loi que l'on ne reconnaît plus ou à un pouvoir que l'on ne reconnaît pas. Et d'ailleurs, et certains de grands juristes se sont interrogés dans ces termes, ce droit est-il encore du droit ? Ce qui m'amène, pour terminer, à cette question à laquelle je vous demande de songer, cette mise en garde de saint Augustin. Si l'on supprime le droit, alors qu'est-ce qui distinguera le pouvoir d'une vaste bande de brigands ? Je vous remercie.
Merci. Alors je laisse la parole donc à Joseph Aguera. Donc vous êtes avocat, donc vous allez parler comme, je dirais, comme usager de la loi.
Oui, comme usager ou utilisateur. D'ailleurs, j'avais hésité à accepter d'intervenir, car le thème qu'il faut respecter lorsqu'on intervient, comment s'écrit la loi, sauf à faire référence à quelques vieilles études de droit constitutionnel, mais totalement étranger. Et j'ai entendu des choses intéressantes, inquiétantes. Moi, je vais vous donner une vision qui va être, bien sûr, moins philosophique que celle de monsieur le professeur, et tout aussi pessimiste que celle de mon confrère comme utilisateur. Et je retiens tout d'abord ce que vous avez dit, c'est que lorsqu'on perd en légitimité, il ne faut pas s'étonner que l'on vous désobéisse. Alors, moi, je suis utilisateur de la loi. Je vais peut-être ce soir, ce n'est pas du tout mon tempérament, faire preuve de cynisme. Je suis un artisan. La loi est un outil, un moyen, une excuse, peut-être un prétexte. Elles sont là, on essaye avec de l'appliquer aux faits dont on est saisi pour faire triompher la cause de ceux qui viennent vous voir en vous exposant leurs problèmes. Et lorsque, notamment à l'occasion de soirées comme celle-ci, on doit prendre un peu de recul comme avocat, on s'aperçoit quand même que la loi, avec un grand L majuscule, gravée dans le marbre de certains frontispices de tribunaux, pas ceux de maintenant, faits par Mobalpa, puisque nos nouvelles juridictions n'ont rien qui puisse impressionner ceux qui les fréquentent, mais les vrais palais de justice, la loi, c'est véritablement quelque chose qui est dévalorisé. Alors moi, j'en étais resté à la hiérarchie des normes, avec la Constitution, les principes qui ont valeur constitutionnelle, et puis la loi. La loi, et je souscris à ce que j'ai entendu, je vais petitement empiéter sur le philosophe, me revenait une phrase qui, je crois, était mon sujet, ça remonte à fort longtemps, d'épreuve du baccalauréat de philosophie, commenter la phrase de Hegel, « La loi est un armistice dans les luttes sociales ». Armistice, ça veut dire que ce n'est pas la paix. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez un groupe qui est dans un sens et un groupe qui est dans un autre. Et puis qu'on fait quelque chose parce que c'est peut-être le meilleur moyen d'arrêter de se taper dessus. Mais ce n'est pas encore la paix. Parce que bah, quand ça bougera ou quand le rapport de force viendra effectivement à bouger, on sera peut-être amené à rectifier effectivement ses frontières. Est-ce que ce que j'ai entendu tout à l'heure au regard de ce que disait ce président de la commission des lois, au Sénat pourtant, qui pour les juristes est toujours un lieu où la réflexion est plus élevée en matière juridique, on est souvent content de voir le Sénat plus serein, réécrire, faire attention à ce que les choses soient mieux dites. Est-ce que finalement, ce n'est pas ce que l'on constate tous les jours, ou pour reprendre, nous en parlions tout à l'heure ensemble, cette phrase de M. Léniel, député maire d'Issoudun, demeuré célèbre, qui remonte à 30 ans et dont les plus anciens d'entre nous se souviendront, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Elle n'est pas là pour prescrire, pour constater un rapport de force. Ce qui compte, c'est la légalité, pas la légitimité. Tant que la légalité suffit comme une espèce, comme la peinture finit par tenir quelquefois certains immeubles, quand la légalité suffit à la tenir, et tant que les gens la respectent et y croient, elle est là, mais est-ce que la légitimité ne doit pas seulement être celle de l'auteur, mais également celle du contenu, pour qu'elle soit acceptée, pour qu'elle s'impose à nous, qu'on les accepte comme une évidence et non pas en râlant et en disant bah, on va l'accepter, c'est dégueulasse, c'est pas une bonne loi, mais je fais ça parce que bah, sinon je vais perdre mon procès ou un jour je serai condamné, sans la comprendre comme on comprend quelque chose qui effectivement est légitime. La loi, et je ne pensais pas, je n'ai qu'une vision très éloignée de ce qui se passe en Europe, ceci me conforte dans ce cynisme ou ce pessimisme dont je vais faire preuve ce soir, la loi, en tout cas au niveau national, se dévalorise elle-même. Elle se dévalorise pourquoi ? Bah, tout d'abord, parce qu'il y a des lois multiples. J'ai eu une inflation législative galopante. J'avais un jour, je ne sais plus dans quel cénacle, émis l'idée qu'à norme supérieure dans la hiérarchie de Kelsen oblige le législateur, lorsqu'il vote une loi, à supprimer un nombre de caractères. Vous savez, comme quand on vous dit de faire un article, ne dépassez pas les 1000 caractères, un nombre de caractères équivalent. Qu'il aille chercher dans Ventose, hein, ou qu'il aille chercher dans un quelconque édit de l'ancien régime toujours applicable, mais qu'il supprime un nombre équivalent, parce que ensuite, ce principe sur lequel tout repose, nul n'est censé ignorer la loi, ce qui est quand même le fondement de tout, bah, devient totalement illusoire et une fiction juridique qui a toujours été, mais qui atteint des proportions particulières. Des lois jetables auxquelles certaines personnalités veulent attacher leur nom. Pas citer, pas rentrer dans des considérations qui pourraient apparaître partisanes, mais on vient d'en voir deux ou trois, dont chacun sait que ça fait très bien parce que quand vous êtes ministre, il faut attacher votre nom à une loi, parce que c'est comme ça que vous passez, croit-il, à la postérité, alors que tout ceci est vain et qu'il faut faire preuve de modestie. On attache son nom à une loi, puis qu'on a dit, bon, si elle avait été là, elle est là, elle est là, mais si elle n'avait pas été là, ça n'aurait rien changé. Les lois émotives. Les lois émotives que l'on prend parce que les journaux d'information en continu ont parlé, à défaut peut-être à d'autres événements ce jour-là, plus de quelque chose, et que vite, on appelle le législateur, et que l'on dit, il y a un vide juridique, notion que pour ma part, je ne connais pas, parce qu'il n'y a jamais de vide juridique, mais il faut vite faire une loi. Et puis, si elle est émotive, jetable, en même temps, pour faire plaisir à celui qui, effectivement, la promulgue, eh bien, nous avons là une dévalorisation de la loi. Et puis, j'allais l'évoquer, vous l'avez dit tout à l'heure, les lois molles, ce qu'on appelle les neutrons législatifs, les lois sans contenu obligatoire. On affirme, on pérore, on dit des choses sans application effectivement concrète. La loi se dévalorise. Et puis des lois mal écrites. Alors je sais, je vais apparaître comme un horrible conservateur, mais lisons les textes du Code civil, sur l'interprétation des contrats. C'était Stendhal, je crois, qui disait que ça forgeait le style en le lisant. Mais il n'y a pas un mot qui est mal choisi, qu'on pourrait remplacer par un synonyme. Il n'y a pas une tournure de phrase qui prête à confusion. On prend aujourd'hui des textes et on se dit, bien que quelquefois le Sénat soit passé par là où généralement on écrit mieux, mais quand on voit sortir des choses de l'Assemblée nationale, et qu'est-ce qu'ils ont bien voulu dire ? Et quand on va chercher dans les travaux parlementaires, généralement, on est quand même aussi déçu de voir ce qui y figure. Voilà ce qu'il en est. Alors, quand quelque chose comme ça se dévalorise, quand le législateur démissionne, pour prendre une formule simple, et vous me pardonnerez, se tire une balle dans le pied avec ces lois-là, comme la nature a horreur du vide, il faut effectivement que quelque chose prenne la place. Parce qu'il faut bien réguler. Et réguler, c'est quoi, pour parler brutalement ? C'est éviter que les gens règlent leurs problèmes à coups de bâton, d'épée, ou avant, ou de Kalachnikov aujourd'hui. Il faut quand même qu'il y ait une loi, qu'il y ait une apparence, que tout ceci donne un semblant d'ordre. Ben, comme il y a un vide, ben, il y a quelqu'un qui prend la place. C'est le juge. Et si on entend le thème de ce soir, de loi, au sens non pas de la règle générale et impersonnelle, votée par l'émanation du peuple qu'est le Parlement, après un débat démocratique où des idées s'affrontent, où ceux, et la phrase de Léniel ne me choque pas, ceux qui n'ont pas l'opinion publique derrière eux, le peuple, le sens du peuple derrière eux, voient leur conception de la loi contrebattue par ceux qui eux-mêmes sont majoritaires, fussent momentanément majoritaires, il y a le juge. Ah, le juge. Et la jurisprudence. Il n'y en a pas ce soir, je crois, ou alors s'il y en a, c'est certain que je ne connais pas, et je dois dire que je le regrette. Je le craignais, mais comme j'aime bien, par profession, la contradiction, je le craignais, mais en même temps, ça m'aurait fait le plaisir qu'il y en ait quelques-uns. Vaste question, la jurisprudence. Vaste question. Première chose, méfiance. Il y a une méfiance intrinsèque en droit français, en tout cas théorique, au regard de la jurisprudence. Dieu nous préserve de l'équité des parlements. La Révolution a tout fait pour casser la jurisprudence. Pourquoi ? Parce que ces parlements, ces grandes villes de parlements, avec ces parlements, vous avez des parlementaires, des charges qui se faisaient de magnifiques hôtels particuliers et qui avaient une puissance telle qu'ils osaient contredire le roi. Et comment la République jacobine, révolutionnaire, pouvait-elle admettre qu'elle-même, porteuse de ses grands idéaux, soit contredite par une caste qui était constituée par ses parlementaires de l'Ancien Régime, ou enfin ceux qui en restaient, ou ceux qui allaient prendre leur place. Donc officiellement, c'est pas une source de droit. La jurisprudence, les juges, dans la doctrine d'origine, n'est que la bouche de la loi. Quand il interprète, il ne fait que prêter son organe au législateur. Il ne change rien. Il ne touche pas la loi. Il ne va pas au-delà qu'une simple interprétation, parce qu'à un moment donné, tous les cas n'ont pas pu être effectivement examinés. Et pourtant, le praticien, et il en est ici, celui qui ne travaillerait qu'avec les codes, il en faut, mais qu'avec les codes, et les codes non annotés, ceux qui les pratiquent voient ce que je veux dire, même les annotés, ça ne suffit pas, parce qu'ils ne paraissent qu'une fois par an, hein, et ça bouge, ils sont obsolètes, à peine sont-ils parus, celui qui n'aurait que les textes, et Dieu sait qu'il y en a, les nationaux, les supranationaux. Mais pour reprendre un dossier, il avancerait les yeux fermés, à l'aveuglette. Mais ça, c'est un vrai problème, puisque la loi, c'est quoi ? Alors, j'ai pas la solution, bien évidemment, non, je serai pas là. Parce que la légitimité de la loi, au moins la fiction existe, c'est qu'elle est votée, elle est l'émanation du peuple, la nation, pour certains. Parce que, par ses représentants, on a voulu quelque chose qui est peut-être différent de ce qui était avant, quelque chose qui est sans doute différent de ce qui va être après, mais enfin, ça a au moins une légitimité formelle, une légalité. Quand la loi est mal faite, quand la loi est bavarde, quand le législateur est paresseux, quand le législateur laisse la bride sur le cou au juge, vous avez des jurisprudences normatives. Je vais vous prendre deux exemples dans des domaines que je pratique. Le premier, pour ceux, enfin c'est un peu technique, bon, sur la définition du temps d'astreinte. Cette phrase extraordinaire du ministre du Travail de l'époque, on ne va pas la nommer, maire de Lille aujourd'hui, qui, venant à la tribune de l'Assemblée nationale, dit « Voilà le texte que le gouvernement propose, c'est un bon texte, c'est la jurisprudence de la Cour de cassation. » Personne de débattre.
sur l'astreinte, la définition de l'astreinte, la loi a été votée, c'était l'attendu de la Cour de cassation. Peut-être que certains considéraient que y a 12 personnes qui ont pris une définition et 540 et quelques qui, à l'époque, qui l'ont votée et personne n'a levé la main pour dire « Hey, législateur, c'est nous. La légitimité, c'est nous. » La Cour de cassation, d'ailleurs, prend très mal quand on prend des lois contre sa jurisprudence. Ah non, on a une caste qui, effectivement, a dit quelque chose. J'ai été frappé de l'existence de bouquins intitulés « Un an de jurisprudence normative ». N'est-ce pas ? Les masques tombent. Un an de jurisprudence normative. Qu'on interprète, je veux bien. Mais un an de jurisprudence normative. C'est-à-dire, voilà les normes. On n'a pas dit la loi, on a pris un terme plus générique, quand même sauvegarder certaines apparences. Hein ? Parce que la loi est faible, parce que le législateur est faible, et que certes, personne ne va dire qu'il ne faut pas de jurisprudence, et que le juge n'est que la bouche de la loi. Bien sûr qu'il y a matière à interprétation, mais laisse sa place à une autorité qui, pour respectable qu'elle soit, surtout par les temps qui courent, il faut que je prenne quelques précautions oratoires, hein, qui est la magistrature, hautement et éminemment respectable, n'a pas de légitimité démocratique à légiférer. Et en tout cas, ces réflexions ne sont pas sur la place publique et ne font pas l'objet d'un débat qui porte en lui, le dit débat, la preuve d'une légitimité. Puis ça pose des problèmes. Parce que quand on s'affirme jurisprudence, et que jurisprudence, et lorsque pour autant on édicte des normes, et là c'est l'avocat qui parle, y a un problème de... Le mot n'est pas techniquement exact, mais c'est comme ça qu'on décrit le mieux la situation, de rétroactivité. Quand le législateur dit « avant c'était comme ça, et maintenant c'est comme ça », nous avons une théorie des conflits de loi ou d'application du droit transitoire dans le temps. Nous sommes à Lyon, le doyen Roubier en était l'un des grands auteurs. Les lois d'ordre public, comment est saisie la matière contractuelle, les lois de procédure, tout ça c'est très bien ordonné. La Cour de cassation, elle vous dit un jour, écoutez, la semaine dernière c'était comme ça, depuis 30 ans c'était comme ça, et bien c'est plus comme ça. Je vous prends deux exemples, l'un dans un domaine que je connais, l'autre dans un domaine que je ne connais pas, mais j'ai révisé un petit peu, pour ne pas trop donner l'impression de ne connaître qu'un seul type de domaine. Les clauses de non-concurrence figure dans le contrat de travail, au terme duquel le salarié, quand il s'en va pendant un certain temps, dans un certain espace, ne peut pas aller faire concurrence à son employeur. C'est la survivance d'une obligation contractuelle. Bon. La Cour de cassation a toujours dit que, hors disposition de convention collective, si elle était limitée dans le temps, dans l'espace, quant à l'activité à ne pas exercer et correspondait à l'intérêt légitime de l'entreprise, on ne va pas mettre une pour un balayeur, mais pour un ingénieur chimiste, oui, il n'y avait pas à prévoir de contrepartie. Je dis ça d'autant plus que personnellement, ça ne me choque pas du tout que celui qui trouve sa liberté de travail obérée pendant un certain temps, dans le temps ou dans l'espace ou quant à l'activité, perçoive une indemnisation qui généralement est de 30 ou 40% du salaire. Ça ne me choque pas. C'est le boulot du législateur. La Cour de cassation, un jour, dans une hypothèse qu'il est vrai s'y prêtait, parce qu'un imbécile a mis une clause de concurrence à un laveur de carreaux dans la ville de Cahors pour la ville, le Lot et les départements réciproques. Le pauvre garçon, je ne sais pas où il allait laver les carreaux. Donc je comprends que la Cour de cassation se soit trouvée quand même un peu l'épée dans les reins, a rendu une décision. Et du jour au lendemain, depuis lors, c'est comme ça, c'est pas autrement. Puis allez pas soutenir le contraire, vous repartez avec une amende civile. Il y a combien de clauses de non-concurrence dans les contrats au moment où ceci a été, j'allais dire voté, j'allais dire promulgué, a été décidé par 11 personnes. 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Non mais oui. concrètement, on fait quoi? C'est un contrat. Quand la loi change, le contrat continue à s'appliquer sous l'empire de la loi dans le cadre duquel il a été conclu. Ou si l'utilisateur dit, écoutez, donc, c'est quand même important, je vous donne un certain temps pour vous mettre en ordre. Puis vous aviez des gens qui venaient, puis c'est magnifique, qui sont venus en disant, ben moi, j'ai pas de clause en concurrence. Donc je suis chercheur chez Sanofi, je pars chez Bayer avec toute... Et d'autres, c'est magnifique, on dit, mais écoutez, moi ça fait un certain temps que je suis là, je serais parti si j'avais su que la clause en concurrence était nulle, je viens d'apprendre qu'elle l'était, donc ça m'a causé un préjudice. Je vous dis pas le pataquès ce que ça a fait. Pourquoi? Parce que c'est une jurisprudence normative. Parce que ça, c'est le boulot du législateur. Prendre un autre exemple, j'ai dit que j'en avais un autre dans un autre domaine. Arrêt qui avait fait couler beaucoup d'encre, en 2001 de la Cour de cassation, condamnant un médecin pour des faits de 1974, ah oui, la justice est lente, au regard d'une obligation d'information des risques exceptionnels dans le cadre d'une opération, qu'en 1974-75, je vais arrêter là parce que ça va être trop long, que toutes ces années jusqu'à 1998, elle avait posé comme n'existant pas. En 1998, elle a dit que pour les risques exceptionnels, il faut informer le patient. C'est pour ça que maintenant, dès qu'on a un bobo, on fait signer 4 pages par lesquelles on est censé tout savoir et renoncer à tout, qu'on ne lit généralement pas, sauf les hypochondriaques. Et de ce fait-là, ce médecin qui avait un procès en cours pour des faits de 1974 se voit condamné en 2001 au visa d'une jurisprudence de 1998. Qu'est-ce qui change par rapport à la loi? La légitimité, oui, mais l'effectivité, non. Mais la légitimité, c'est quand même important. Pourquoi c'est comme cela? Ben parce que on n'ose pas franchir le dernier pas. Et il y a, j'en ai un ici, rapport sur les revirements de jurisprudence de 2004, qui n'a rien changé. Il y a quand même des magistrats qui se sont dit, attendez, il y a un petit problème. Il y a des questions de sécurité juridique. Un auteur, les revirements affectent les actes que les auteurs, sur la foi de la jurisprudence, avaient cru réguliers au moment où ils l'ont conclu. La Cour de cassation, quand on lui dit sécurité juridique, répond « La sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit. » Circulé, il n'y a rien à voir, c'est comme cela. Alors la loi, pour revenir au sujet, est terminée, parce que, voilà, j'ai terminé. La loi, oui, mais au-delà des questions extrêmement intéressantes que j'ai entendues évoquer tout à l'heure, pas la loi verbeuse, pas la loi molle, pas la loi circonstancielle, pas la loi émotive. Arrêtez de perdre du temps à faire des trucs mal écrits et comme cela, et consacrez-vous effectivement à ce qui doit être l'expression dans une société démocratique de ce que le peuple, pour prendre des formules constitutionnelles, souhaite pour accompagner, pour arbitrer dans des thèses, puisque j'ai entendu des thèses différentes, pour prescrire une direction, en faisant toujours attention que seule une loi légitime, non pas au regard seulement de ceux qui l'ont votée, mais également au regard de certains principes qu'on pourrait appeler soit du droit naturel, soit du bon sens, soyez, je ne prends pas parti, seules les lois légitimes sont acceptées par le corps social et appliquées. Alors bien sûr, on n'est pas uniquement là pour faire des lois en disant bah, « Écoutez, vous allez tous rouler jusqu'à 200 km/h, ce sera très bien accepté par le corps social. » Et encore, je pense que certains lobbies seraient bruyants à cet égard. Mais quand même, la loi se doit d'être réservée à ce qui est son domaine pour que d'autres ne l'empruntent pas, ce domaine, ne le lui dispute pas. Mais pour cela, il faut qu'un certain nombre de précautions soient prises. Et je regrette que, mis à part un législateur européen, il n'y ait pas de magistrat ou de législateur, ou que M. Michel ne soit pas là pour pouvoir lui dire à cet égard quelque chose. Voilà quelques observations de l'utilisateur sur ces questions.